Catherine Clément, une philosophe et romancière française qui a passé son enfance en compagnie de sa grand-mère, chrétienne, a écrit ceci. Dieu est pour le bien des hommes à quelques conditions. Qu'on l'honore, qu'on le prie, qu'on lui fasse des sacrifices. Sinon, Dieu devient terrible. Il te fait le déluge, l'exil, la guerre, la sécheresse, la foudre, au choix. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est cela votre image de Dieu? Si c'est le cas, cela signifie que vous partagez l'image de Dieu qu'ont les peuples païens. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, qui a beaucoup de similitudes avec ce récit du déluge, nous enseigne que les dieux veulent détruire toute l'humanité parce que le bruit perturbe leur repos. Mais vous le verrez, enfin vous le savez probablement déjà, l'image de Dieu que nous donne la Bible est fort différente de celle-ci. Dans la Bible, on peut observer trois choses. Dieu constate que la terre est détruite par la violence et il en est infiniment triste. Affligé. On observe donc une autodestruction de la terre. Deuxièmement, on voit un Dieu qui protège sa création. Les oiseaux, les animaux, les petites bêtes comme les grandes. En fait, ils ne cherchent pas à la détruire, cette création, mais à la sauver. Troisièmement, Dieu prend soin de ceux qui sont des rescapés et il les protège, Noé et tous les siens. Vous allez me dire qu'il va protéger Noé car Noé va lui offrir un sacrifice. Non. Je crois que nous allons ensemble rechercher la pointe de ce message. À la fin du récit, Dieu se dit « Jamais plus je ne vais faire cela. » Ce n'est pas une solution. On nous dépeint donc un Dieu qui change d'avis. Mais est-ce que c'est vraiment ce que ce texte veut nous dire? Devrait-on croire en un Dieu qui change d'avis? Non, il s'agit là de ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Donc, ce texte attribue à Dieu des caractéristiques humaines, un comportement humain. Dieu, nous le savons, je pense tous, Dieu ne change pas d'avis. Cette formule signifie bien plutôt que Dieu est en désaccord profond avec cela. Et il est en désaccord avec le fait qu'on lui attribue la responsabilité d'avoir fait cela, d'avoir amené ce déluge. Comment s'imaginer que le Dieu que nous connaissons, que nous aimons, puisse faire venir le déluge? N'est-ce pas plutôt nous qui devrions changer notre conception de Dieu? D'un Dieu terrifiant qui enverrait le déluge, à un Dieu qui renonce à détruire parce que ce n'est pas une solution. Il le sait très bien. Il n'a pas besoin d'en faire le test pour le savoir. Le texte veut nous conduire à un changement de notre image de Dieu. C'est nous qui nous trouvons devant un nouveau visage de Dieu, un Dieu miséricordieux et compatissant, puisqu'il ne réduit pas les violents, il ne détruit pas les violents. Jésus également va s'évertuer à faire évoluer l'image de Dieu qu'ont les humains. Il va nous donner une sorte de filtre qui devrait nous permettre de ne pas laisser entrer dans l'image que nous faisons de Dieu des éléments qui le défigurent. Croyons-nous en un Dieu qui commande un génocide? Ou en un Dieu qui envoie des maladies? Ou qui est favorable à un attentat suicide? En tout cas, lorsque les disciples de Jésus lui demandent de faire descendre le feu du ciel sur un village, parce qu'il n'a pas voulu recevoir Jésus, Jésus est outré. Jamais Jésus n'aurait fait cela. Un Dieu qui envoie le déluge, c'est un Dieu des religions païennes. Ce n'est pas le Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ, ni celui de ce récit. Le récit du déluge reflète plutôt nos désirs de solutions radicales qui sont destructrices. Qui n'a pas pensé, moi, si j'étais à la place des autorités, je détruirais ces gens-là, je ferais place nette. Comme ça, on en serait débarrassé. La violence est de notre côté. Elle n'est pas du côté de Dieu. Nos fantasmes de régler les choses de manière violente sont balayés par le récit du déluge qui montre que ce n'est pas une solution. Ce récit n'est donc pas à prendre, à mon avis, comme un récit historique, mais comme une allégorie, un texte symbolique. Il fait partie de ces textes fondateurs, avec les deux récits de la création, qui nous expliquent comment, qui ne nous expliquent pas comment Dieu a créé le monde, mais qui est Dieu. En nous révélant que c'est lui qui a tout créé, il nous enseigne avec quel soin il a exécuté, créé toutes ces choses qui démontrent tous les trésors de créativité qu'il a dû déployer pour développer tout l'écosystème que nous connaissons en ce monde. Ces deux récits de la création nous révèlent un Dieu grand et merveilleux qui utilise sa force et sa puissance pour créer, pour faire quelque chose d'infiniment bon. Le déluge nous révèle que ce Dieu puissant se refuse à utiliser sa puissance pour faire du tort à sa création. Nous l'avons vu lorsque notre texte nous dit que Dieu se repent, c'est pour nous faire comprendre que non, résolument, Dieu n'utilise pas la violence pour solutionner la violence. La violence n'est jamais une solution. La solution nous sera donnée en Jésus-Christ. C'est par l'amour que Dieu va solutionner le manque d'amour, la méchanceté, l'indifférence à l'autre, l'individualisme. Le déluge nous décrit un Dieu qui sauve, au travers de Noé et de tous les animaux qui montent dans l'arche, toute l'humanité et la biodiversité. Je l'ai dit, c'est, à mon sens, un récit symbolique. De même que tous les éléments d'une parabole ne sont pas à exploiter individuellement, sans quoi on peut parfois lui faire dire l'inverse de ce qu'elle signifie. Dans le récit du déluge, il ne faut pas trop penser à tous les êtres humains, à tous les animaux qui ont péri, car ce n'est pas là la pointe du récit. L'accent est à mettre du côté des sauvés, de ce que Dieu effectue pour toujours redonner chance à l'humanité. Ce Dieu qui a toujours à nouveau l'espérance, la confiance en l'humain, espérant bien sûr que nous allons utiliser notre liberté à bon escient. Ce Dieu nous demande de prendre soin de sa création et nous confie des responsabilités. Cela signifie donc que nous ne pouvons pas nous contenter de laisser notre belle terre se dégrader et rester les bras croisés. Si le prénom Noé signifie repos, tranquillité, nous voyons que Noé n'est pas un homme somnolent. Il se lève et agit pour protéger la création qui se dégrade et parce que les humains se pourrissent la vie. Et c'est Dieu qui lui indique une solution afin de protéger la magnifique création qu'il a confiée aux humains. De même, aujourd'hui, Dieu a besoin de nous, afin que, comme Noé, nous nous levions pour prendre soin de sa création, de son œuvre extraordinaire, qui aussi se dégrade du fait de notre consumérisme effréné. Si aujourd'hui le niveau des océans s'élève du fait du réchauffement climatique, il est grand temps, à la suite de Noé, de construire une arche. Ce terme est le même qui a été utilisé pour parler de la corbeille de Moïse, qui lui a permis d'être sauvé des eaux. Étonnant, ce parallélisme. Une arche, c'est un peu comme un cocon protecteur qui n'a pas pour vocation de nous sauver juste nous-mêmes, égoïstement, mais de sauver l'humanité et la création tout entière. Ainsi donc, qu'à notre tour, nous ne pensions pas « Après moi, le déluge », expression qui signifie qu'on est indifférent de ce qui arrivera après nous. Noé a pris soin de tous ses descendants. Nous sommes héritiers de Noé. À notre tour, prenons le relais. Construisons une arche. Amen.